Seigneur, nous n'aurons pas assez de l'éternité pour comprendre pourquoi tu nous aimes. Mais par la foi, nous croyons que ton amour est loyal, sincère, honnête, juste, parfait. Quand on repense à cette croix, on ne peut pas rester insensible à tout ce que tu as enduré pour nous, pour moi, pour le monde entier. Et on se sent bien misérable, bien petit, devant un si grand amour, devant une si grande abnégation, devant cette croix où tu as passé des heures dans une agonie épouvantable, où tu as connu l'enfer, tu as connu le péché de l'humanité, tu as été frappé, condamné, par ton propre Père, volontairement. Qui sommes-nous, Seigneur, devant tant d'amour? C'est vraiment avec une toute petite foi, en tout cas pour ma part, que je viens à tes pieds ce matin, avec mes frères et sœurs, pour te dire merci, mais un bien trop petit merci. Et je sais que ta grâce est encore là ce matin. Je sais que cet amour, il est toujours vivant là ce matin. Je sais que tu es près de ceux qui s'approchent de toi avec un cœur sincère, même si nous sommes affligés par notre péché. Nous savons que ce péché a été lavé, a été purifié une fois pour toutes. Et que chaque jour nous pouvons bénéficier de ce pardon ineffable grâce à ce sacrifice unique et éternel que tu as offert en ton corps sur le bois. Alors Seigneur Jésus, toi qui es le seul médiateur entre Dieu et les hommes ce matin, veuille avoir pitié de nous aussi pour notre petite compréhension de ta puissance et de ton sacrifice immense. Viens au secours de notre incrédulité, viens au secours de notre aveuglement, viens au secours de notre nudité spirituelle, viens au secours de notre misère quotidienne. Viens au secours de tous nos besoins, parce que tu es capable d'y pourvoir. Bénis cette prédication, Seigneur, et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Amen. On passerait des heures au pied de notre Seigneur, n'est-ce pas? On est tellement bien au pied de notre Seigneur, pas vrai? Parfois, cette semaine, il m'est arrivé d'être devant le Seigneur et de ne savoir pas comment verbaliser ce que je voulais lui dire. Alors, je fermais les yeux et je me rappelais que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables, même quand on ne sait pas quoi lui dire. Et on est bien. On est bien quand on est même dans le silence devant lui. Alors, on va quand même passer au message. Même si on est bien dans la présence du Seigneur, mais ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur ce thème dynamis, vous allez comprendre pourquoi, ou la puissance de la résurrection. Ça serait quand même malheureux d'avoir un culte de Pâques et de ne pas parler de la puissance de la résurrection. Et le texte, pour nos amis qui écoutent sur Zoom, se trouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens, Et nous parcourons le chapitre 1er au verset 19 jusqu'au chapitre 2 verset 7. Bon, alors, il est bien allumé, c'est bon. Alors, vous aurez remarqué que dans notre siècle, on parle beaucoup d'énergie. Si ça va pas à chaque fois, ça va pas aller. Alors évidemment, on vous rabat les oreilles avec les énergies renouvelables. Qu'est-ce qu'il a, ce machin? C'est pénible. Oui, il manque d'énergie, je crois. Il y a un problème d'énergie. Mais là, on va y passer 2 heures si ça marche pas. C'est bien embêtant. Voilà. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On rentre? On rentre chez nous? Ouais, mais si à chaque fois je dois vous faire signe... Non, il faut que ça marche. Sinon... Pardon? Je ne voudrais pas que la technique nous détourne de ce qu'il y a de plus important. Parce que ça, c'est le piège... Notre attention est détournée par des choses et c'est embêtant. T'es sûr? Ta main chaude a ramené toute l'énergie. La mienne n'est pas assez chaude, peut-être. Ah, c'est lui qu'il faut que je vise là? Non, là-bas? Ok. Sur la tête de Jean-Noël. Clac! Ah, ça marche. Oui, alors, je disais donc que vous aurez remarqué que dans notre siècle présent, on vous parle souvent des énergies. Alors, les énergies renouvelables, avec la campagne présidentielle, vous en avez entendu parler. L'énergie nucléaire, on parle aussi beaucoup, c'est très à la mode, des énergies cosmiques. Et on parle aussi pas mal des valeurs énergétiques alimentaires, le bio, tout ce qu'il faut pour l'équilibre alimentaire. Mais nous, chrétiens, quelle est notre énergie? Ça, c'est notre question ce matin. Où puisons-nous nos forces, notre énergie? Quelle est notre puissance énergétique, notre dynamisme? D'où vient-elle? Quel est notre carburant spirituel? Sommes-nous énergiques? Sommes-nous dynamiques? Sommes-nous motivés? Sommes-nous à plat peut-être, blasés, fatigués, démotivés, endormis, sans vision, sans trop d'objectifs, déçus par des expériences malheureuses, des échecs de la vie? Vivons-nous une explosion de vie en Christ? Il y a un livre de Ralph Challis qui s'appelle « Explosion de vie ». Il explique ce qui se passe dans votre cœur quand le Saint-Esprit vient vous faire naître de nouveau. C'est un gros livre, mais ça vaut la peine de le lire. Avons-nous épuisé toutes nos ressources? Vous savez, on va vers le modernisme, et que vous preniez un téléphone portable ou une voiture électrique, vous êtes toujours conditionné à la recharger. C'est casse-pied d'ailleurs, parce que le téléphone, il consomme beaucoup, pour peu que vous fassiez des photos. La voiture, elle consomme beaucoup aussi, mais il faut toujours la recharger. Et un jour, vous regardez votre téléphone, mince, il n'y a plus assez de jus. C'est assez frustrant. Et dans la vie chrétienne, je pense qu'il y a des moments, c'est pareil. On est un petit peu à plat. Mais où puisons-nous notre énergie? Alors, je vais vous raconter 3 petites histoires ce matin. La première, connaissez-vous l'histoire de Teudas et de Judas le Galiléen? Deux grands inconnus du Nouveau Testament, peut-être. Raconté par Gamaliel. Alors lui, vous le connaissez, Gamaliel, qui était un pharisien, professeur de la loi de Moïse. Et il va raconter cette histoire lors de l'arrestation des apôtres. D'ailleurs, vous savez que Paul était élevé au pied de Gamaliel, si ma mémoire est bonne. C'était son professeur favori, peut-être. Alors, dans Actes 5, versets 35 à 39, voilà ce que dit Gamaliel. À ses acolytes du Sanhédrin, il leur dit « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Teudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas le Galiléen à l'époque du recensement. Et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort. Et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu, leur dit-il. Cette œuvre, l'Église de Jésus-Christ, est toujours debout, mes amis, depuis 2000 ans. Et elle est établie pour l'éternité. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'un certain Jésus de Nazareth. Ça commence plutôt mal. En Matthieu 26, versets 30 à 32, Jésus dit, après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Jusque-là, on a l'impression que c'est la même chose qui se passe que chez Teudas et Judas le Galiléen. Mais il y a un « mais ». Jésus s'empresse d'ajouter « après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée ». Ils ont eu du mal à le croire. Ils ont eu du mal à le croire. L'histoire de Jésus aurait pu finir comme celle de Teudas et Judas le Galiléen, mais elle s'est terminée autrement. Jésus est apparu vivant à plus de 500 personnes et surtout à Saul sur le chemin de Damas. J'ai relu l'histoire de sa conversion, c'est bouleversant, bouleversant. Un persécuteur de l'Église, être happé sur le chemin de Damas par le ressuscité en personne, qui se sent persécuté en même temps que son Église. Et puis, sans oublier Jean sur l'île de Patmos, qui a eu cette révélation extraordinaire de l'Apocalypse, où il a vu Jésus en roi, Jésus en gloire. Il y avait de quoi tomber devant lui. Il donna à ses apôtres de nombreuses preuves de sa résurrection pendant 40 jours. C'est Luc qui nous le dit en début du livre des Actes. Après avoir fait de nombreuses recherches, une compilation de preuves, de témoignages, pendant 40 jours, ces preuves ont été données de sa résurrection. Et l'apôtre Paul, qui a vécu cette expérience extraordinaire de conversion sur le chemin de Damas, qui a rencontré le ressuscité, il dit en 1 Corinthiens 15, « Si les morts ne ressuscitent pas, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger, nous les apôtres ?» Chaque jour, il dit, « Je risque la mort. Quel avantage m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous allons mourir. » Oui, Jésus est bien ressuscité. Par la puissance de Dieu, par le dynamisme de Dieu. Mais qu'est-ce que ça change pour nous ce matin ? Christine nous posait un peu la question dans le même sens tout à l'heure. Par rapport aux partisans de Teudas et de Judas le Galiléen, Jésus ne nous semble-t-il pas parfois loin, absent ? Et on se dit, est-ce que ça vaut bien la peine ? Est-ce qu'on est sur le bon chemin ? Est-ce qu'on a tout compris ? Où est-ce que j'en suis par rapport à lui, n'est-ce pas ? Alors, dans ce fameux texte des Éphésiens, chapitre 1, versets 20 à 23, cette fameuse puissance, le Père de gloire, l'a déployé en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et au verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous ne sommes plus livrés à nous-mêmes, mes amis, comme les partisans de Teudas et de Judas, le Galiléen. Nous avons un chef vivant, un grand berger, immortel, invincible. Bien sûr, on peut perdre un pasteur, on peut perdre des anciens, on peut perdre des leaders spirituels. Et ce serait une immense tristesse. Mais n'oublions jamais que nous aussi, on va disparaître un jour de cette terre pour rejoindre la position dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais nous avons un chef vivant, lui, un grand berger qui est immortel. Et nous ne sommes pas dispersés ni désemparés après la mort d'un chef, parce que notre chef, il est vivant. Il est vivant et nous, ses disciples, formons un corps avec lui, nous dit l'Écriture. Il est la tête, un corps qui est destiné à la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça, c'est son but, de vous remplir, de me remplir, de remplir son Église. Dieu ne nous demande-t-il pas d'être continuellement rempli de son esprit? Alors la troisième histoire, c'est la nôtre. Ça commence plutôt mal aussi. Vous la connaissez, votre histoire. Éphésiens 2, versets 1 à 3 nous dit « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, Satan, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. » Et je me demande si on réalise tout ce qu'on a vécu avant, n'est-ce pas? Parce que des fois, on est passé un peu vite dans la conversion et le salut, le pardon. Mais l'Écriture est pleine de sagesse parce qu'elle nous dit tout le temps « Souvenez-vous, souvenez-vous ». Nous tous aussi, dit Paul, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et oui, nous en étions là. Peut-être nous l'avons-nous oublié. Et peut-être sommes-nous encore piégés aujourd'hui par ces choses. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Et cette colère, je me demande comment on peut réaliser que cette colère à laquelle nous étions destinés, des milliards d'humains, cette colère est tombée sur un seul homme, le Fils de Dieu. On dit la foudre, mais je suis sûr que c'est pire que la foudre. On ne peut pas imaginer que le poids de milliards d'hommes, de péchés de milliards d'hommes, et pu tomber sur un seul homme juste comme Jésus. Et moi, avant d'être converti, quand je voyais cette croix, je savais pas pourquoi il était mort. Pour moi, c'était injuste. Et à chaque fois, je me cachais parce que j'étais en larmes. Et je ne connaissais pas le Seigneur. Mais je trouvais cette croix tellement injuste. Mais il y a un « mais ». En Éphésiens 2, versets 4 à 7, Paul dit « Mais Dieu est riche en compassion, en miséricorde. » Qu'est-ce que la miséricorde? C'est le sentiment par lequel la misère d'autrui touche notre cœur. Est-ce que vous vous sentez parfois misérable? Eh bien, sachez une chose, c'est que ça touche le cœur de Dieu. Parce que Dieu est riche en miséricorde. Et lui, il a pitié de notre état. Il a pitié de notre cœur. Il a pitié de notre impuissance. Il a pitié de notre faiblesse, de nos chutes. C'est un amour loyal, un amour sincère, un amour qui ne nous trahira jamais. un amour inconditionnel, un amour qui est lié à sa nature de Dieu saint. Nous, notre amour humain, heureusement on en a un autre qui nous vient au secours, mais notre amour humain est tellement limité. Dieu a une miséricorde qui représente une bonté imméritée. Pourquoi, Seigneur, tu m'aimes ? Il répondrait pour rien. Je t'aime, c'est tout. Je t'aime. Et ce matin de Pâques, nous voulons nous rappeler ce grand amour qu'il a eu pour nous. À cause du grand amour dont il nous a aimés, si dans la salle il y a une personne qui ne se sent pas aimée, sachez au moins que vous êtes aimé de Dieu. Et vous n'êtes pas aimé d'un amour humain, sentimental, passager, fragile, mais vous êtes aimé d'un grand amour divin. Et pourtant, nous étions morts en raison de nos fautes. Moi, je ne sais pas vous, mais il m'est difficile d'aimer quelqu'un qui me fait du mal, humainement parlant. Il n'y a que l'amour de Christ qui peut triompher de ça. Mais ça me perturbe, ça me fait mal. Eh bien, Dieu a accepté ça et il a un amour infini. Il a pitié de notre misère. Nous étions, nous, destinés à la colère divine. Aucune œuvre de notre part ne pouvait satisfaire la justice divine. Et s'il y a une chose dont il faut être sûr ce matin, c'est que seule la croix sauve. Alors on est dans un monde où on voudrait bien que le salut parvienne par 36 chemins. On disait dans le temps que tous les chemins menaient à Rome, mais il n'y a qu'un chemin qui mène au salut. C'est le chemin de la croix. Et ce grand amour agapé, comme vous savez en grec, j'aime bien cette définition qui consiste à dire, c'est rechercher le plus grand intérêt de celui qui est aimé. Rechercher le plus grand intérêt de celui qui est aimé. Dieu cherche le plus grand intérêt chez chacun de vous, sans favoritisme, sans considération de personne, ni d'âge, ni d'origine, ni de culture, ni de statut social. Notre Dieu nous aime, mes amis. En sommes-nous convaincus ? Moi, je ne le suis pas toujours. J'ai besoin de me le rappeler sans cesse. Oui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Il nous a rendus à la vie avec le Christ, ça a été dit ce matin. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. On ne réalisera jamais assez que nous étions morts spirituellement, nous étions séparés de Dieu et il nous a rendus à la vie. Sans aucune raison, hormis son amour, immense, divin. Il nous a ressuscité, nous dit l'Écriture, et il nous a fait asseoir, alors ça c'est encore plus surréaliste, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà notre union avec Christ et notre position céleste. Nous avons été identifiés avec lui. Alors ça nous dépasse parfois. Nous avons été identifiés avec Jésus-Christ en sa mort et en sa résurrection. C'est comme si nous avions vécu la croix avec lui et c'est comme si nous ressuscitions avec lui. Je ne sais pas si on réalise cette position. Un jour, Dieu merci, on le comprendra pleinement. Parce que Dieu veut qu'on le comprenne. Dieu ne va pas vous laisser sur votre faim. Il veut que vous ayez cet esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance pour savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et aussi, on le verra, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance qui a ressuscité Jésus. Dieu ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance spirituelle. Il veut que vous grandissiez dans sa connaissance. Il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir avec lui. Nous sommes identifiés. Quand vous vous êtes fait baptiser dans l'eau, vous avez été identifié à sa mort en plongeant dans l'eau et identifié à sa résurrection, en quelque sorte, symboliquement, en ressortant de l'eau. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Alors ça, c'est vrai que c'est un message qu'on On galvaude beaucoup hein, dans nos milieux évangéliques. Et j'ai peur qu'on s'habitue, pour moi-même. J'ai peur de m'habituer à la grâce de Dieu. J'ai peur de m'habituer en considérant que c'est normal. Jésus est mort pour moi, Jésus est mort pour nous, c'est normal. Et on en parle tous les dimanches. Mais ces passages nous invitent à réfléchir. Dieu nous a aimés, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a ressuscités et il nous a donné une position céleste en Christ. Que pouvait-il faire de plus ? Et c'est un salut et une nouvelle vie toujours accessible ce matin. Si quelqu'un dans cette salle n'a pas encore fait la paix avec son Dieu, qu'il sache que Dieu l'aime et que Dieu veut le sauver. Ou du moins, il l'a sauvé. Encore faut-il que cette personne accepte cette folie de la croix, cette folie de Jésus cloué pour lui, cette folie du sang de l'agneau de Dieu qui ôte tout péché du monde. C'est possible ce matin à l'un d'entre vous qui peut-être n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Et voilà ce que Pierre dit à des païens, des non-juifs, des païens, chez Corneille, ce fameux centenier romain, en Actes 10, verset 43, « Tous les prophètes rendent de lui, Jésus, le témoignage que toute personne qui croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. » Croire, vous savez comme moi, que ça veut dire mettre notre confiance en Christ, en son œuvre et en sa parole. Mais il ne se contente pas de s'adresser aux païens, il s'adresse aussi à son peuple élu qui s'est détourné de lui. Voilà ce que dit l'apôtre Paul à des juifs religieux, c'était des gens pieux, des gens qui croyaient bien faire peut-être, même Paul croyait bien faire en persécutant l'Église. Il avait du zèle pour Dieu, mais il n'avait pas la connaissance de Dieu et de Christ. En Actes 13, versets 38 et 39, il dit « Sachez-le donc, mes frères. » Il les appelle frères parce que Paul était juif. Et Paul avait une souffrance épouvantable vis-à-vis de ses frères juifs qui étaient rebelles, au point de dire « Je prie qu'ils soient sauvés, je voudrais être anathème. » Jamais j'aurais eu la force de dire ça. Je voudrais être anathème si c'était pour les sauver, être sûr de les sauver, n'est-ce pas ? Eh bien, mes frères, c'est par lui, Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérée par la loi de Moïse via l'obéissance légaliste et l'auto-justification personnelle. Donc parfois on est pieux. J'ai été pieux dans mon enfance. J'étais dans le catholicisme et très tôt, vers 7-8 ans, j'étais fasciné par Dieu et j'avais dans ma chambre un petit endroit, une chaise, j'avais mis un cajot à l'envers avec une nappe en tissu, un bouquet de fleurs et il y avait une croix. C'est un peu mystique, hein ? Je vous ai peut-être jamais raconté ça. Mais il y a quelque chose qui se passait en moi, une espèce d'attirance pour ce Dieu que je ne connaissais pas, ce Jésus que je ne connaissais pas. Et Dieu a été patient pendant des décennies jusqu'à vraiment me montrer pourquoi ce Jésus pour lequel je pleurais en regardant la croix injuste, pourquoi est-ce qu'il était mort ? Ce sacrifice sanglant, affreux. Mais le plus extraordinaire est encore à venir, Éphésiens 1, 19 à 20. L'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Ça paraît lourd comme ça, hein ? Mais ça montre bien que les mots ne suffisent pas à définir la puissance de la résurrection. Un peu comme l'apôtre Paul a été ravi au troisième ciel, il a vu des choses ineffables qu'il n'était pas possible d'exprimer. C'est un peu la même chose. Les mots sont lourds sont accumulés, on a l'impression, dans cette phrase. Mais vous allez voir que derrière ces mots, il y a des vérités importantes pour nous. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et vous remarquerez que Jésus est assis comme nous et avec nous. J'avais jamais vu ça dans le texte. C'est exactement la même expression. Jésus est assis à la droite de Dieu et nous, nous sommes assis avec lui. C'est inimaginable que le roi des cieux, que le Fils de Dieu tolère quelque part notre présence assis à ses côtés. Nous allons régner avec lui. Moi, ça me dépasse, je sais pas vous, mais ça me dépasse. Et c'est pourtant vrai. Et c'est ce qui est écrit. C'est la même puissance, notez bien, que Dieu utilise envers nous et celle qu'il utilise pour ressusciter Jésus. Est-ce qu'on peut imaginer ça humainement? Que la même puissance qui a ressuscité Jésus soit la puissance que Dieu met à notre disposition, qu'il utilise envers nous, le pouvoir de sa force envers nous qui croyons, simplement parce que nous croyons, simplement parce que nous faisons une confiance d'enfant, en quelque sorte, à notre grand Dieu et à notre grand Sauveur Jésus-Christ, uniquement sur sa parole. Je crois ta parole, point. Je peux paraître fou, idiot, dégénéré, je m'en fiche. Je crois à ta parole. Ta parole est la vérité. C'est pas une vérité, c'est la vérité. Et j'y crois. Voilà, je suis assez fou pour y croire. Et j'espère que vous êtes fous autant que moi, sinon plus. Mais vous imaginez cette puissance qui est la même. J'avais pas compris ça, non. J'avais pas découvert ça non plus. Imaginez un moteur de rafale sous un capot de Clio. C'est une très mauvaise image, je vous l'accorde. Mais c'est la seule que j'ai trouvée. Aurions-nous idée de mettre un moteur d'un avion supersonique rafale sous un capot d'une petite voiture de 4 ou 5 chevaux ou 7 chevaux au pire? Mais vous imaginez quand vous tournez la clé, l'effet que ça doit faire? Vous êtes déjà monté sur une moto? Moi, je suis monté, mais en tant que passager. J'étais jeune à l'époque et un jeune homme m'a dit, tiens, tu veux faire un tour? On a fait un tour. On avait une grande ligne droite et je suis monté à l'arrière et il a simplement fait ça. Et on est parti à une vitesse. J'ai jamais démarré aussi vite de ma vie dans un véhicule, à part peut-être un avion de ligne, mais on s'en rend moins compte. Mais sur une moto, on s'en rend compte. Eh ben, c'est des images très maladroites, mais la puissance de Dieu qui met à notre disposition, c'est un peu comme ça. Nous allons être surpris. Nous serions surpris, nous qui croyons en Jésus-Christ, toute cette puissance que Dieu met à notre disposition. Laissons-nous surprendre. Cette puissance capable de ramener un mort à la vie. La surpassante grandeur de sa puissance. Ça, c'est le texte original. Alors, on va la voir en détail car l'Écriture nous décrit cette surpassante puissance de Dieu. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a besoin de mettre des mots sur des choses parce que sinon, on comprend rien. La surpassante grandeur, littéralement une puissance selon l'énergie de la force de son pouvoir. Là encore, on a une accumulation de mots. C'est un peu lourd à digérer, non? Vous ne trouvez pas? C'est un peu massif, hein? C'est la grosse artillerie lourde là. La puissance en grec, c'est dynamis. C'est pour ça que je vous ai mis le titre dynamis. Ça a donné en français dynamite. Dynamo, dynamisme, une force spirituelle et dynamique vivante. C'est ça la puissance de la résurrection, la puissance de Dieu. C'est la dynamite. Donc si un jour vous vous faites arrêter par les gendarmes, ne faites pas la blague que vous avez, en disant que vous avez de la dynamite. Sinon vous allez avoir des ennuis. La dynamite, elle est à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas des porteurs de dynamite, mais vous avez la dynamis de Dieu par son esprit en particulier, force spirituelle et dynamique vivante. Et cette dynamique, cette dynamisme, cette puissance, elle a trois caractéristiques. La première chose, c'est une puissance énergétique qui est capable de nous donner toute l'énergie possible et nécessaire, même quand nous sommes à plat. Vous savez, un vélo à plat, suffit de... on regonfle un petit coup. Mais on est... c'est pareil, au plan spirituel, c'est pareil. C'est une puissance énergétique. C'est une puissance souveraine. Et ça veut dire une puissance qui vient à bout de toute résistance. Dieu va venir à bout de toute résistance. En respectant, bien sûr, le choix de chacun, mais on ne pourra pas lui résister éternellement. À un moment donné, il va y avoir deux chemins. Si on ne lui a pas résisté, on sera avec lui. Et si on lui a résisté, on sera sans lui, éternellement. C'est affreux, non ? Puissance souveraine et une puissance forte, c'est carrément le pouvoir divin. Et on retrouve dans l'Écriture, dans plusieurs domaines, par exemple, la force que Dieu communique pour le servir. Je crois que c'est l'apôtre Pierre qui parle de ça. Je n'ai pas mis les passages, je ne voulais pas trop alourdir non plus. Et puis, Éphésiens 6 nous parle de sa force toute puissante, celle qui fortifie, par exemple, dans vos combats spirituels, dans vos luttes, dans vos difficultés. C'est une force ainsi puissante, un pouvoir divin. Donc, c'est une énergie, c'est une puissance souveraine, c'est une puissance forte. Vous voyez que ces mots, finalement, c'est important de regarder chacun pour bien faire le tour de cette puissance. On sait aussi que cette super puissance est capable de s'accomplir dans notre faiblesse humaine. Ça fait partie du miracle de Dieu. Même si on a une écharde dans la chair comme Paul, même si on boite, même si on a des difficultés, même si on a toutes sortes de problèmes, elle s'accomplit dans notre faiblesse humaine. Et Paul donne des exemples dans son expérience personnelle, même dans les insultes, dans la détresse, dans la persécution, dans l'angoisse, dans 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10, il parle de cette super puissance qui est capable de s'accomplir même dans notre faiblesse, même sans que nous nous en rendions compte, même si nous nous sentons à plat, si nous nous sentons par terre. Cette notion de puissance ne doit pas rester virtuelle. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, Dieu veut qu'on prenne conscience de ce qu'il nous a donné, pour ne pas passer à côté de ce qu'il veut de nous. Éphésiens 1, 18 à 19, si on le prend dans la traduction « Parole vivante » de Monsieur Kuhn, je trouve intéressant, il dit que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de ceux qui placent leur confiance en lui, Christ notre chef. Que nous prenons conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en notre faveur. Est-ce qu'on y a recours à ce pouvoir, à cette puissance ? À qui appartient l'Église universelle et locale ? Est-ce notre Église, notre œuvre ? Gamaliel a dit, si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Il y a peut-être des églises qui disparaissent de temps en temps, des églises locales, j'entends, mais l'Église universelle, elle disparaîtra jamais. Rien ne pourra la détruire. Raison de plus pour travailler sérieusement dans cette œuvre. Je trouve que c'est un encouragement de travailler sérieusement, de se mettre vraiment au boulot, de vraiment puiser dans cette puissance extraordinaire de Dieu qu'il a mis à notre disposition pour le servir, même dans les combats difficiles. De qui sommes-nous les partisans ? De Teudas ? De Judas le Galiléen ? Non, nous sommes partisans du Seigneur Jésus. Le Christ, le Fils de Dieu, qui est notre chef véritable, à qui allons-nous rendre des comptes ? C'est à lui. C'est lui qui un jour va nous prendre entre quatre yeux, ou peut-être entre plus dieux, je ne sais pas comment ça sera fait, mais où il va nous demander des comptes. Il va nous dire, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu as fait comme ça ? Quelle est notre position terrestre et céleste ? Nous, on est très terrestre forcément. Hein. C'est normal, mais n'oublions pas notre position
céleste. Pâques, c'est aussi l'occasion de s'en rappeler. Où puisons-nous nos forces, notre énergie? Quand nous sommes vides ou à plat, n'y a-t-il plus d'espoir? La parole de Dieu a-t-elle perdu de son pouvoir et de son efficacité? L'Esprit Saint a-t-il perdu de sa puissance depuis les apôtres? L'Évangile n'est-il plus la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit? Parfois tenté de dire, comme le psaume 77, verset 11, « Je me dis ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. » Parfois, ça vous est peut-être arrivé de le dire. Moi, ça m'est arrivé de le dire. « Seigneur, j'ai l'impression que ta droite, c'est plus la même. Ton bras, c'est plus le même. » Comme si Dieu nous avait abandonnés, comme si Dieu nous avait laissés de côté, comme si Dieu était fâché contre nous et que les choses qu'on veut faire pour lui n'avancent pas comme on le voudrait ou comme on l'imaginait ou comme on le discernait dans l'Écriture. On est désemparé, on se dit, voilà, mais attends, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est ton chef. Et un chef, ça s'intéresse à ses ouvriers, n'est-ce pas? Il y en a des mauvais, des fois, qui ne s'intéressent pas, mais un chef... Un vrai chef, il s'intéresse à ses ouvriers, il s'intéresse à son équipe. Il va voir, il en voit un qui ne va pas bien, il va le voir, etc. Bon. Jésus est comme ça. Quelques exemples de l'Église primitive pour nous montrer que Dieu n'a jamais cessé, même dans ce livre, de manifester sa puissance. Acte 2, 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour. Non pas une conversion tous les 5 ou 10 ans, chaque jour. C'est ça la puissance de Dieu aussi. Acte 5, 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Et cela malgré les menaces et les arrestations. La puissance de Dieu, elle agissait. Acte 5, 42, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, les apôtres ne cessait pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Ça m'a étonné ces temps-ci. J'ai relu ça, je dis, mais comment faisait-il? Mais où trouvait-il l'énergie d'enseigner et d'annoncer? Alors, l'enseignement et l'évangélisation en même temps. Tous les jours, au temple, dans les maisons, partout. C'était pas un effort occasionnel. Vous voyez, des fois, on se dit, oh, la puissance de Dieu, elle a changé. Mais regardons les efforts qu'ils ont faits, n'est-ce pas? Tous les jours. Ah, bien sûr, Dieu a ajouté des âmes tous les jours. Mais tous les jours, on semait la parole. Tous les jours, on enseignait, vous rendez compte? C'est un effort extraordinaire. Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Un vrai feu de broussailles. Acte 8, verset 12. « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » Acte 9, 31. « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur et elle grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. » Acte 11, 21. « À Antioche, plus loin encore, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. » Voilà la puissance de Dieu. La parole de Dieu se propageait. On retrouve ça en acte 12, 24, en acte 13, 49, en acte 19, verset 20 et en acte 16, verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Si ça, c'est pas la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Nous, on peut pas faire ça sans lui, hein. Alors, que conclure? Bien sûr, Dieu ne travaille peut-être pas toujours de la même façon entre la période des actes et aujourd'hui. C'est un argument qu'on peut éventuellement présenter. Le monde environnant s'endurcit certainement peu à peu. Au fur et à mesure qu'on approche de la fin des temps, du retour de Jésus, il y a une apostasie qui est en train de se préparer. Le terrain est difficile. Mais une chose est sûre, mes amis, Dieu n'a pas changé. Sa puissance est toujours la même, c'est la même puissance qui agit envers nous qui a ressuscité Jésus, exactement la même. Son désir de bâtir son église est toujours aussi fort. Il est resté intact et rien ne pourra enlever ce projet. Rien ne pourra détruire ce projet. Rien ne pourra s'y opposer. Mais sommes-nous encore ces partisans inconditionnels ou trop dispersés dans nos efforts, nos objectifs, peut-être autosatisfaits, peut-être niant certaines évidences? Et avons-nous pris conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en notre faveur? Alors quelle source extraordinaire de vitalité, de puissance et de force! Ce jour de Pâques est l'occasion pour nous tous d'y puiser encore et encore, parce que vous serez d'accord avec moi, tous les jours on a besoin de puiser ses forces. Tous les jours on a besoin de se renouveler. Tous les jours on a des problèmes nouveaux. tous les jours. Et mais Jésus est là tous les jours. Jésus est ressuscité. Tous les jours il est vivant. Dieu est là à vos côtés, Dieu vous aime tous les jours. Vous vous rendez compte? Et ça, moi, ça me fait du bien, hein, parce que des fois, c'est pas toujours facile. Alors, on va écouter un chant qui est très, très ancien, mais qui a été remis un petit peu au goût du jour. Et on va le laisser mettre en route là-bas par notre technicien, à l'agneau sur le trône du groupe Héritage que vous connaissez certainement. Il est à fond là. Un petit coup de confinement, hein, pour...
À l'agneau sur son trône, apportons la couronne, il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme. Béni, adore, acclame. Avec tous les anges du ciel, Jésus, Emmanuel. Croix pour trop, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Ô prince de la vie, la mort est asservie. Christ est ressuscité. Ouvrir les cieux et qui
Seigneur, nous voulons te rendre l'honneur suprême ce matin. Tu mérites toute la reconnaissance et l'adoration, le remerciement de notre part. Tu as tout accompli. Tu l'as dit sur la croix, tout est accompli. Seigneur, on te rend gloire, on te remercie aussi pour cette perspective de ton retour. Tu reviens nous chercher bientôt. Merci pour cette position céleste que tu nous as réservée en Christ. Merci aussi pour cette puissance dynamique, cette puissance énergétique, spirituelle, que tu mets à notre disposition, qui est aussi importante, qui est la même que celle qui a ressuscité Jésus-Christ. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour ton évangile, qui sont des puissances, qui sont efficaces, qui sont utiles plus que tout dans notre quotidien, Seigneur. Et comme c'est ton désir, Père, que nous puissions prendre conscience de l'importance de cette puissance que tu mets à notre disposition chaque jour pour te servir, pour travailler aussi, pour éduquer les enfants, pour diriger l'Église. Seigneur, aide-nous à puiser constamment dans ces ressources infinies de ta puissance, de ton dynamisme, que nous puissions être dynamiques, que nous puissions être motivés par toi et que nous puissions effectivement avoir toute l'énergie divine, l'énergie spirituelle pour faire ce que tu attends de nous dans les jours, les semaines, les mois et les années qui viennent si tu n'es pas revenu d'ici là, Seigneur. Bénis ton Église, bénis nos frères et sœurs qui sont sur Zoom aussi, et que ce jour de Pâques soit un jour de joie pour nous, un jour où on prend conscience que tu es venu pour nous et que tu nous aimes, que tu nous aimes d'un amour inaltérable, d'un amour parfait. Quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit ce qu'on fait, ton pardon est toujours disponible. Et même si ce matin quelqu'un ne te connaît pas, je te prie d'attirer son âme à toi et de le toucher dans son cœur. Dans le beau nom de Jésus-Christ, notre chef suprême, le chef de l'Église, le seul chef digne d'être nommé, d'être glorifié. Amen.